Bonjour à tous, bonjour Dominique.
Bonjour.
Nous sommes vendredi. Qu'est-ce qui se passe ?
Non, il ne se passe rien du tout. C'est le week-end du suspense, du suspense électoral. Je pense qu'on va rigoler, je ne sais pas. Moi, j'espère qu'il va y avoir des choses un petit peu étonnantes.
Ah, on veut rigoler ?
Ah ben, je suis en manque de rigolade depuis des mois, pour ne pas dire depuis des années, en fait, en ce qui me concerne. Pour raconter ma vie. Enfin bon.
Heureusement que vous avez été sur mon chemin, Dominique. Hein.
Pourquoi ? J'ai été sur votre chemin ?
Bah sinon, ce serait bien triste.
Ah oui, d'accord. Oui. Alors, il y a une chose qui, ces derniers temps, m'a vraiment agacé. C'est ce fameux procès là, des attentats qui a duré pendant des mois. Là, ce procès qui dure des mois. Ah, le Cap d'Eslam, là, je ne sais pas quoi. Mais quand est-ce qu'on va arrêter ce jeu-là, de faire durer ces procès-là ? Vous vous rendez compte ?
Tous les jours, il y a une dépêche par rapport à ce procès.
Tous les jours. Et alors, là, c'était la semaine dernière, je n'ai pas pensé en parler à ce moment-là, mais ce type-là, il fait jouer son droit au silence. Il arrive à l'audience, c'est le moment où on veut savoir pourquoi il n'a pas fait ceci, pourquoi il a fait cela. Et il fait jouer son droit au silence. Et donc, mon droit au silence, je me tairai. Et puis il revient sur son droit au silence après. Il parle, mais il préside l'audience ou quoi? Non, mais attendez, mais c'est absolument épouvantable. C'est-à-dire, nous, on voit ça comme ça parce que, alors, ce sont les formes de droit des pays démocratiques et c'est tout à notre honneur que le droit se maintient. Mais enfin, il y a des limites. On devrait quand même cantonner ça à un certain nombre de choses. C'est-à-dire que depuis des mois, là, dans la mouvance dont il se recommande, qui est l'islamisme terroriste, on les met en vedette pendant des mois. Comme vous dites, tous les jours, il y a une dépêche, il y a des images. Et quand monsieur ne veut pas parler, on en fait une dépêche. Quand monsieur daigne enfin parler, on en refait une dépêche. Qu'est-ce qu'il dit à ces gens, aux gens de sa mouvance terroriste ? Il dit, voyez, c'est moi le maître. C'est moi. Voilà, moi.
Bah ouais, mais on ne sait pas se faire respecter, France.
On ne sait pas se faire respecter. Alors, il renonce à son droit à parler. Après, il veut parler et on le laisse parler. C'est quand même étonnant. Tu voulais te taire, tu te tais. Voilà.
Mais en même temps, les personnes qui sont autour dans le tribunal, ils ont envie de savoir.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on a vendu. Alors, je vais être très critiqué sur ce que je vais dire. On a vendu l'idée que pour faire son deuil, il fallait absolument aller au bout de cette espèce de catharsis, comme ça, du procès. Mais c'est pas la même chose. Un catharsis, c'est un procès. Il n'a pas cette fonction-là.
Moi, personnellement, si oui, je sais pas. Je pense que ça m'apportera rien là de savoir. Pour moi, c'est horrible.
Il y a des proches de victimes qui n'y ont pas mis les pieds, qui ne veulent pas en entendre parler. Ça existe, ça, on ne vous les montre pas. Mais qui dit, attendez, non.
Je comprends tout à fait.
Ça va bien, quoi. Bon. C'est interminable. Et alors, c'est une tribune qui est offerte à ces gens-là, avec on est presque dans à la limite de la complaisance du système démocratique capable de se...
Et ça va encore durer combien de temps ?
Je sais pas, ça doit se terminer quand ils sont tous morts, j'en sais rien. Je plaisante pas, mais enfin j'en ai marre. Moi ça commence vraiment à m'agacer, je l'avais dit au début du procès, mais ouais, on y est. Puis alors,
mais vous savez qu'il y a une histoire comme ça, j'ai vu la dernière fois. Il y a une affaire judiciaire, elle a été engagée il y a 23 ans.
Ah oui ?
Et elle est toujours pas jugée.
Oh.
23 ans. Et en fait, il y a des personnes qui ont porté plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme en disant, c'est quand même bizarre que notre enquête, elle avance pas. Et là, ils viennent d'être, ils ont accepté, ils vont recevoir 39 000 euros à peu près de dédommagement à cause de ce retard. Ils vont recevoir 39 500 euros exactement, c'est 4 requérants. Et c'est une enquête qui est conduite par la justice française, mais qui est un peu lente, et qui visait l'Institut Aubert, une ancienne école privée de Vincennes, qui était accusée d'avoir appliqué des préceptes de l'église de Scientologie à l'insu des parents d'élèves. Et ça, ça date depuis les années 90. C'est fou, hein ? Et les gens, ils attendent toujours le jugement.
Et on leur a donné 35 000 euros, c'est ça ?
Bah oui, parce que la Cour européenne des droits de l'homme dit, effectivement, la justice française est beaucoup trop longue.
Ouais.
Donc on leur a donné 39 500 euros pour... Bah alors, c'est le gouvernement français hein, qui paye, qui donne 39 500 euros. Enfin, c'est vous et moi, par exemple, vous
oui.
voyez.
Oui, oui, bah, on est bien contents de savoir ça. Bah, ça me fait plaisir pour mon week-end et tout.
C'est la justice... Tout ça parce qu'ils sont en retard.
Oui, non, mais la justice, elle n'est pas lente. C'est la justice, elle est démunie, donc elle est lente. C'est-à-dire la justice, elle n'a pas les moyens...
Tout le monde est démuni, Dominique, là, en ce moment.
Tout le monde est démuni.
L'hôpital est démuni, la justice est démunie.
Ça me fait penser, ce fait que les trucs de la fonction publique sont diminués. Il y avait dans le monde diplomatique, je crois, du mois dernier, c'est en novembre 21, en novembre. En novembre c'est...
Ouais, là, on est en avril.
Oui.
Là, on est en avril 2022.
Non, mais je vous remercie. Merci. En avant. Alors, j'ai retrouvé cet article-là récemment. Il y a dans le monde diplomatique, il y avait un article dont le titre était « Quand l'État paie pour disparaître ». Et en fait, c'était bien avant l'affaire McKinsey, enfin tout ça, c'est avant qu'on le connaisse. Et c'était exactement la description de ça, c'est-à-dire de l'État paie des officines privées pour en fait organiser sa propre disparition. Et ce qui était très intéressant dans cet article, c'est qu'il montrait exactement comment le piège fonctionnait. C'est-à-dire qu'on fait intervenir du privé pour donner des solutions au public. Ce faisant, le public entre dans un système de solutions qui n'est pas le sien. Donc le privé devient indispensable, puisque c'est sa logique, ouais. C'est son logiciel, si vous voulez, qui est intervenu. Donc il devient indispensable, n'ayant plus de raison de s'impliquer dans les affaires qui sont déléguées au privé. Il perd la capacité, il perd l'expertise, il perd le savoir-faire, donc il devient inopérant, ce qui justifie encore plus encore le recours au privé. Et donc vous avez un délitement, on parlait de la Poste l'autre jour, on a un délitement progressif qui se fait et qui aboutit à l'incompétence du public, à la non-compétence du public par rapport au privé. Et une fois qu'on est arrivé à ce stade-là, on dit, ben vous voyez, c'est indispensable, on ne peut pas faire autrement que... cet enchaînement diabolique, on est dedans. Et c'est ce que c'est.
On se mord la queue, quoi.
Voilà, on organise la perte du savoir-faire de la fonction publique et des fonctionnaires. C'est tout à fait extraordinaire.
Mais en attendant, je vois pas mes impôts baisser, par contre.
Non, c'est ça. Vous avez tout à fait raison de souligner ça, parce que j'ai entendu aussi qu'on comparait les dépenses françaises en matière de cabinet de conseil privé avec, par exemple, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Mais quand on regarde les choses de près, en Allemagne, vous avez 56 fonctionnaires pour 1000 habitants. En France, on en a 85. Voilà. C'est-à-dire que eux, ils font appel à du privé, mais il y a moins de fonctions publiques. Ne parlons pas du Royaume-Uni, où la fonction publique, elle est squelettique, pratiquement squelettique. Voilà. Donc
mais après, par exemple, l'Allemagne, est-ce qu'ils ont des hôpitaux publics?
Voilà, c'est ça.
Il faut comparer ce qui est comparable.
Alors,
après.
On peut pas comparer que des dépenses. Hein.
Non.
C'est comme les chiffres de Monsieur Lebras. Je lisais ça dans l'Humanité, lundi, je crois. Oui, dans l'Humanité lundi.
Vous avez des belles lectures.
Mais je lis tout.
C'est vrai, Dominique. C'est bien, mais enfin, c'est bien, c'est parfait.
J'essaie de lire le maximum de choses.
C'est parfait.
Et il y avait un article du démographe Hervé Lebras, vous savez, qu'il dit que le grand remplacement, c'est une fiction. Mais parce qu'il ne s'intéresse qu'aux données. C'est-à-dire les gens qui rentrent, et puis les gens qui sortent, et puis les gens ceci, et puis les gens cela. Donc il y a une manière...
Oui, mais qui rentre et qui sort.
Voilà. Oui, c'est ça. C'est
moi, c'est ça qui m'intéresse.
Qui rentre et qui sort. C'est pas les mêmes. Hein, c'est
manifestement pas les mêmes. Non, je pense pas que ce soit les mêmes.
Et ceux qui rentrent, ils rentrent avec quoi? Ils rentrent avec quoi? Avec l'intention de faire réparer les
travailler,
préjudices de
réussir.
Décolonisation. Voilà. Ou de faire de la réparation. Vous savez, on parlait là.
Encore de réparation.
Oui, de la colonisation ou de l'esclavagisme. S'ils rentrent avec cette intention-là, c'est pas la peine de chercher à les intégrer. Voilà. C'est pas seulement rentrer. C'est rentrer pourquoi? Voilà, parce que il y a la solution du Canada. On nous vend beaucoup la solution du Canada, c'est-à-dire l'immigration choisie. Hein, les quotas,
ouais, il y a des candidats. Qui j'ai encore entendu dire qu'ils partaient encore travailler au Canada encore.
Oui, mais alors le Canada, ils sont en train de revenir sur cette notion-là, parce que le problème ne se règle pas. Il se règle à la première génération, mais à la deuxième génération, on retrouve le même problème. Ah, le problème de refus, le problème de rejet de la société canadienne. C'est-à-dire que c'est comme chez nous, un peu chez nous, hein. Les grands-parents étaient plus intégrés que le sont les petits-enfants, bien souvent. Hein, pour les populations.
Ben vous savez qu'au Canada, par exemple, vous voulez aller monter votre entreprise au Canada.
Oui.
Et vous dites, j'ai dans mon pays d'origine, j'avais telle personne, je peux l'embaucher, elle va venir au Canada pour travailler avec nous. Eh ben non, c'est interdit. Mmh. Vous devez d'abord embaucher quelqu'un qui est sur le territoire canadien. Non, vous n'allez pas faire venir quelqu'un de l'extérieur, de l'étranger, pour venir travailler sur le territoire canadien.
Bah, ça me paraît être le moins, ça me paraît être le minimum. Oui, ça me paraît tout à fait bien, ça.
Tout à fait.
Tout à fait.
On se fait une pause ?
Oui.